Όχι, 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 όχι,
όχι, όχι, όχι, όχι,
Bienvenue à Parole aux auditeurs. Le monde a célébré hier 23 avril la journée internationale du livre et du droit d'auteur. En marge de cette journée, c'est une occasion pour nous pour promouvoir la lecture, ainsi promouvoir l'industrie éditoriale, la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d'auteur. Ce mardi, nous parlons spécifiquement de la lecture. Que faut-il faire pour promouvoir la lecture en RDC? Cette activité de compréhension d'une information écrite a notamment deux fonctions, la fonction didactique qui forme l'individu et la fonction ludique qui est relative au divertissement. Et pour en parler, nous avons invité pour vous M. Georges Moulumba, il est le directeur général de la Bibliothèque nationale. Christine Koutou, Pierre Lamégie et Héritier Sidia Sala sont à la réalisation de cette émission. À la présentation, Marie-Chantal Moulumba.
C'est parce que Radio Kapile est le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur Internet, radiokapile.net.
Bientôt, nous aurons notre invité. Avec lui, nous allons savoir un peu s'il a une idée des personnes qui s'intéressent à la lecture en RDC, savoir le nombre des personnes peut-être qu'il reçoit dans sa bibliothèque, aussi connaître de quelle catégorie sociale ou de quel genre. Nous aurons à en parler avec notre invité dès qu'il sera avec nous au téléphone. Entre-temps, nous allons écouter nos auditeurs. Ils vont nous dire ce que eux ils pensent, ce qui peut être fait pour promouvoir la lecture en RDC. Et si vous voulez participer à cette émission, vous avez trois possibilités. La première, c'est de composer le 081-890-69-69, le 081-890-69-69. Ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiokapi.net ou encore poster votre avis sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Notre premier auditeur, c'est Papa Anto, il est à Kikwit, bonjour.
Bonjour maman, comment vous allez?
Oui, nous allons bien et dites-nous, c'est vrai que c'est un peu difficile de parler de promotion de la lecture parce qu'avec notre invité, on aurait pu avoir les statistiques pour savoir quelle est la situation dans nos milieux, est-ce que les gens ont l'habitude de lire ou pas du tout. Mais en attendant notre invité, dites-nous, Papa Antoine, qui écoute où vous vous trouvez, est-ce que dans votre environnement proche, vous avez l'impression que les gens que vous côtoyez, les gens que vous voyez, s'intéressent à la lecture?
Oui, oui, oui. Notre ville de Kikwit, je vous fais bien de vous le dire, c'est la ville de notre grand-père Nikan de Boubienne. C'est quelqu'un qui a écrit beaucoup, c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué même dans le théâtre. La ville de Kikwit est vraiment, vraiment, vraiment comblée de bibliothèques pour la lecture, pour les élèves du secondaire et pour les étudiants de l'université.
Donc les gens, ils vont dans les bibliothèques, les gens ont l'habitude de lire.
Oui, exactement. Mmh. Nous avons par exemple Victoria Diez qui est là. Nous avons la grande bibliothèque avec l'hôtel Rivière en ville basse. Nous avons des bibliothèques un peu partout, maman.
Mmh. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut être fait pour renforcer cette habitude que les gens ne puissent pas diminuer leur intérêt à la lecture?
Les problèmes de la grammaire, surtout au secondaire, nous avons fait les études du CIO. J'avais un professeur, le professeur Nguya Van Montaigne Mao, je ne sais pas aujourd'hui où il est. Je connais le professeur qui m'a fait cours à Pindi, à l'Institut Lonkobo. Et Moutamontoula, de temps à autre, il s'est intéressé à la lecture, les cours de grammaire, les cours de lecture adoptés.
S'il y a même des élèves qui vous disent que le secondaire vont à l'université, pas comme il faut vous faire la lecture, c'est difficile. Alors, continuez avec cette leçon de lecture et reconnaître les noms des auteurs, par exemple, des programmes professeurs que nous avons ici. Ce sont de bonnes mémoires, ce sont de bonnes choses qui feront que la lecture puisse continuer.
Merci, Papa Anto. De qui quitte. Pastor, vous êtes à Manono, bonjour.
Bonjour Marie-Chantal, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capille.
Nous vous écoutons patient. Dans votre milieu, est-ce que vous avez constaté que les personnes s'intéressent à la lecture?
Personnellement, ici à Meneno, je pense que les gens s'intéressent moins à la lecture.
Et pourquoi?
Du fait que les bibliothèques ne sont pas actualisées. Nous avons les documents qui datent de très longtemps, aussi avec l'avènement de l'Internet, qui est au détriment de la lecture aujourd'hui. Pour promouvoir la lecture.
S'il vous plaît, patient. Avec l'Internet, par contre, les gens sont obligés de lire, parce que si on ne sait pas lire, on ne peut pas consulter Internet. C'est peut-être l'habitude d'avoir des livres d'une manière dure, c'est peut-être ça qui a un peu disparu, mais à l'Internet, il y a même des bibliothèques virtuelles. Vous ne pensez pas que l'Internet doit favoriser la lecture, parce que sans lire, c'est assez difficile de pouvoir se connecter sur Internet, à moins qu'il y ait cette fonction qui permette d'écouter une fonction audio, mais souvent, on est obligé de lire quand on est sur Internet.
Oui, c'est dans les fonds que... Quand les gens s'intéressent beaucoup plus à l'Internet, vous voyez que non, la documentation est négligée. Mais là, pour arriver aux propositions, moi, je proposerais qu'au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, que les enseignants fassent travailler les élèves, par exemple, en leur donnant les devoirs à domicile, et puis, il y a ajouté aussi le référence bibliographique. On a vu certains textes, par exemple de 30 pages, qui sont passés comme ça, sans aucune référence bibliographique.
Donc, inciter la jeunesse à la lecture. Merci aux patients de Manono. Patrick nous écrit ceci. Bonne souhaite et bon courage à tous les auteurs congolais et à ceux d'autres nationalités, comme c'est une occasion pour le monde entier de parler des auteurs et des écrivains. Il y a Johnson Alain, il faut construire plus de bibliothèques et les rendre accessibles à tous. Achille Nkoy, je pense qu'il faut seulement créer un climat permettant la lecture en équipant et en actualisant les bibliothèques qui existent, car ceux-ci sont très pauvres. Guillaume de Magui, bonjour. Bonjour Guillaume. Nous avons perdu Guillaume qui se trouve à Magui dans la province orientale. Nous allons lire encore ces deux messages. Serge Michika nous écrit, le Congolais n'aime pas la lecture. S'il faut cacher quelque chose, même un son chèque, il serait facile de pouvoir le cacher dans les écrits. Il ne saura pas le découvrir parce qu'il néglige la lecture. Sauf les juristes congolais, la lecture est son pain quotidien, surtout les avocats, défenseurs judiciaires et même quelques magistrats. Donc c'est ce que pense Serge Luchika, qui pense qu'il n'y a que cette corporation ou bien ceux qui sont dans ce domaine-là de la justice qui lisent, c'est ce qu'il nous écrit. Il y a aussi Noé Kiaro de Bukavu. Il faut initier le Congolais à la lecture à partir du bas âge pour en faire une habitude. Et aussi, je rappelle à tous nos auditeurs qui nous suivent en ce moment, si vous voulez participer à cette émission, vous avez trois possibilités, le 081-890-69-69, le 081-890-69-69. Vous pouvez nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net, encore poster votre avis sur la page Facebook.
Parole aux auditeurs.
En attendant que nous puissions être connectés, en soyons liés par bien sûr le réseau téléphonique à notre invité, M. Georges Moulumba, qui est directeur général de la Bibliothèque nationale. Lui, il va nous expliquer ce qu'il vit au quotidien concernant la lecture. Nous savons, en tout cas, plusieurs auteurs ont écrit que la lecture, c'est la nourriture même de l'esprit. Lire permet de se concentrer, de s'évader, d'être curieux, de se cultiver encore davantage, de savoir ce que le roman en particulier renferme dans ses pages, bien sûr n'importe lequel, que ce soit un roman policier, d'aventure, une biographie ou encore une revue. Pour un roman, une fois qu'on a fini le livre, on apprend toujours quelque chose en plus, et cela enrichit considérablement notre savoir. Et avec notre invité, nous allons essayer de voir la lecture, savoir comment la lecture se comporte face à l'audiovisuel, parce que de plus en plus qu'il y a des chaînes de télévision, qu'il y a autres médias audiovisuels, cela, en fait, il y a toujours un impact sur la lecture. Mais nous allons en parler avec notre invité. Aussi, la lecture et la pauvreté, parce qu'il y a eu un auditeur qui est revenu sur le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de bibliothèques, le fait que la vie soit difficile, les difficiles de s'abonner à la lecture. Donc, nous allons essayer d'en parler avec notre invité dès que nous l'aurons en ligne. Entre-temps, nous avons Camille qui se trouve à Bokungu. Bonjour, Camille.
Bonjour, bonjour, mademoiselle.
Madame, nous vous écoutons, Camille. À votre avis, qu'est-ce qui peut être fait pour promouvoir la lecture?
Oui, ma préoccupation est celle-ci. Je suis le président de la Société civile de Congo.
Mm-hmm.
Nous avons un problème au niveau de le prêt de dissertation. C'est-à-dire le prêt de dissertation, il y a une majoration de 3000 francs. Au lieu de 15, l'inspecteur délégué a demandé au candidat 18 000 francs. Il y a des préfets qui sont allés même à 32 000 francs congolais.
Oui, s'il vous plaît, Camille.
La majorité de ces candidats n'ont pas passé.
S'il vous plaît, Camille. Camille, s'il vous plaît. Camille, j'espère que vous êtes en train de me suivre. Là, vous êtes en train de donner des informations concernant l'organisation de la dissertation à l'Équateur, notamment à Bokungu. Merci pour l'information. Bien sûr, l'émission d'aujourd'hui, nous parlons de la lecture. Nous allons, bien sûr, la rédaction de Radio Kapi pourra faire le suivi de cette information pour savoir ce qui se passe réellement à Bokungu concernant cette épreuve de dissertation. Mais revenons au sujet du jour. Camille, j'espère que vous êtes toujours avec nous en ligne.
Merci beaucoup. Oui. Mais ça, c'est ça ma préoccupation.
Oui, là, vraiment, merci pour l'information, Camille, parce qu'aujourd'hui, nous parlons plus de la lecture. Nous savons que la lecture nourrit l'esprit, on apprend beaucoup en lisant, et même, il a été prouvé que les jeunes qui ont l'habitude de lire, ce n'est pas difficile pour eux de pouvoir rédiger, de pouvoir passer leur examen de dissertation, parce qu'en lisant, on apprend des nouveaux mots, on apprend l'orthographe, donc il y a autant de choses qu'on apprend en lisant, mais vous êtes plus préoccupé par ce qui se passe actuellement à Bokungu concernant l'épreuve de dissertation. Merci pour l'information, Camille. Nous donnons la parole à Maître Théodore. Bonjour, Maître Théodore.
Bonjour, madame.
La réalisation est signe que vous êtes écrivain. Aujourd'hui, nous parlons de la lecture. Vous qui êtes écrivain, vous êtes auteur, dites-nous, est-ce que vous avez l'impression que les gens avec qui vous vivez, les gens que vous avez l'habitude de côtoyer, s'intéressent à la lecture?
Il y a une classe qui est très intéressée à la lecture. Il s'agit principalement des étudiants à l'université et des élèves qui sont au niveau de l'école secondaire.
Mm-hmm.
Mais la grande majorité n'est pas vraiment intéressée à la lecture. Sauf lorsque il faut faire un travail fonctionnel de recherche, c'est alors que les gens s'intéressent à la lecture.
Et à votre avis, pourquoi?
Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'actions incitatives à la lecture. Il n'y a pas aussi beaucoup d'infrastructures qui invitent les gens à la lecture. Ou encore, les occupations pendant le week-end font que les gens ne s'intéressent pas trop à la lecture. Alors, il faudrait qu'il y ait quand même des actions stratégiques au niveau du ministère de la Culture ou même au niveau des gouvernements provinciaux pour inciter la population à la lecture. Il faut qu'on définisse un programme d'accès à la lecture.
Et à votre avis, dans ce programme, qu'est-ce qu'il peut contenir? Est-ce que vous avez des propositions ou des suggestions pour pouvoir promouvoir la lecture?
Oui, il faut organiser d'abord un état des lieux avec des sondages d'opinion pour voir ce qui peut intéresser le public, identifier les différents publics pour concevoir un programme d'accès à la lecture. Il faudrait, à ce niveau-là, peut-être organiser un travail de bibliothèque au niveau de communes, au niveau des quartiers, de bibliothèques de proximité. C'est une première piste. Mm-hmm. Une autre piste serait de voir comment on peut commencer à racheter les livres et soutenir les éditions, les maisons d'édition des livres, pour les aider à produire un plus grand nombre de livres, à produire un grand nombre d'auteurs. Mmh. Comme ça, il y aura une diversité des livres, mmh, selon les différents thèmes. Donc, mmh, autant des pistes, et voir comment on peut organiser par exemple un salon du livre, un salon, mmh, international à qui cherche des livres, où on éviterait tous les écrivains et les auteurs qui viendraient de différentes provinces et pourquoi pas de l'étranger. Ça va inciter les gens à découvrir les livres et à commencer à lire. Mm-hmm. Donc, ce sont des activités de promotion des livres et renforcer aussi la législation sur la politique culturelle pour voir comment on peut financer aussi la production des livres et subventionner les auteurs qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mm-hmm. Voilà autant des pistes, des stratégies qu'on peut utiliser.
Maître Théodore, restez avec nous. Restez avec nous. Vous allez écouter d'autres auditeurs qui vont faire des propositions pour la promotion de la lecture. Passons de Kimboulou, restez en ligne, vous allez intervenir dans quelques secondes.
Parole aux auditeurs.
Jérès Kilonde de Monéditou nous écrit: il faut initier les enfants à la lecture, pas seulement à l'école, même à la maison. Yannick Salala de Lubumbashi: la lecture stimule l'intelligence, il faut vraiment stimuler le Congolais à la lecture, surtout la jeunesse qui aime plus des loisirs autres que la lecture, afin qu'ils apprennent davantage. Et nous savons que la jeunesse, c'est le Congo de demain. Jacques Moulaki, roi de Bénin: la lecture est une activité intellectuelle continuelle. Sur ce, le gouvernement doit implanter au minimum une bibliothèque dans chaque ville, mais aussi renforcer les bibliothèques des universités publiques, car nos étudiants des villes non dotés de bibliothèques sont obligés de pouvoir faire un effort ou bien d'aller chercher des livres qui soient vraiment loin de leurs universités pour rédiger leur TFC ou leur mémoire, et cela c'est assez difficile pour nos bibliothèques, nos petites bibliothèques qui se trouvent dans les universités qui ne sont pas souvent achalandées. C'est ce que nous dit Jacques Moulakiwa de Béni. Passons de Kimboulou, bonjour.
Bonjour Marie-Chantal, je suis passé un petit peu à Kimboulou, mais à 17 km à ma part, à Kimboulou.
Nous vous écoutons. Qu'est-ce qui peut être fait pour promouvoir la lecture?
Madame, ce que je voudrais dire en ici, chez nous à Kimboulou, la lecture est laissée là. On s'intéresse à la lecture, mais il sait que c'est confié les professeurs et les enseignants qui étudient à l'école primaire, c'est d'insister beaucoup sur cette leçon-là de lecture, quand c'est à 10 ans, on quand même surtout à parler du français. Vous voyez bien, madame, la jeunesse, c'est notre histoire congolaise. Alors, je demande à ceux qui vivent
de la baisse du niveau des enfants, surtout des jeunes gens. Vous allez voir quelqu'un qui termine ses études humanitaires, secondaires, il ne sait pas lire, il ne sait pas faire la lecture. Pourquoi? Parce que l'État congolais qui s'occupe de l'enseignement ne s'intéresse pas de la lecture. Moi, je me ferai un exemple, madame, parce que moi, j'ai voulu à l'intérieur même de la province du Maniema, à Kama, c'est un centre protestant. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le professeur de français de langue s'occupait de la lecture des enfants. Et ça, ça a coûté cher, parce qu'à la cotation, si vous ne savez pas lire, vous ne pouvez pas avoir de points à l'école. On avait une bibliothèque, les Américains ravitaillaient nos bibliothèques. Et on avait instauré le système des exposés. On distribue des sujets aux enfants. Et puis, chaque enfant, on donne la chance à chaque enfant de présenter ses données devant ses collègues. Ça faisait beau en tout cas. Et si tout le monde s'intéressait à la lecture, voilà une façon qu'on voit la lecture. Une autre chose, on part dans des écoles. Les écoles poussent comme des champignons ici chez nous. Un peu partout des écoles. Et ces écoles là-bas ne sont pas, outillées, ne sont pas documentées. C'est-à-dire quoi? Vous allez voir une école, une grande école qui organise la section commerciale ou littéraire, pas de documents. Et les enseignants utilisent des anciens cahiers qui sont remplis de fautes, ainsi de suite. Et je commence, je dis que vous allez promouvoir la lecture pendant que les écoles d'abord ne sont pas documentées. Pour promouvoir la lecture, il faudrait commencer d'abord à documenter toutes les écoles. Et parce que ces enfants qui sont là-bas, c'est le Congo de demain, ce sont les dirigeants du domaine, et si ces enfants là-bas ne sont pas préparés pour la lecture, je pense qu'il n'y aura pas une bonne promotion de la lecture. Et puis, ça, ça peut créer la culture de la lecture. Voilà, c'est ça, madame, ce que je peux vous dire.
Merci, Amici. Je rappelle que vous appelez de Kindu. Nous avons gardé maître Théodore Ngazi qui écrivait en ligne. Maître Théodore, vous avez suivi nos auditeurs. Est-ce que vous avez une réaction en écoutant les propositions des auditeurs?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec tous ces intervenants, d'autant plus qu'il y a un problème d'accès aux livres dans plusieurs milieux, dans les milieux scolaires, même dans les milieux universitaires. Il y a des écoles qui sont très éloignées des centres urbains, et ils ont quand même d'approvisionnement à livres. Il faudrait vraiment qu'au niveau du gouvernement central et au niveau des gouvernements provinciaux, qu'on définisse un programme d'accès à la lecture et de la consommation du livre. Et ça demande quand même des réflexions à plusieurs niveaux, au niveau des décideurs politiques et au niveau aussi des opérateurs culturels tels que les éditeurs de livres, les écrivains. Je crois qu'il y a lieu que nous puissions déjà initier ce genre de réflexions, même de manière informelle, et amener les gouvernants à prendre des mesures qui s'imposent pour faciliter l'accès aux livres, à tous les livres. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Il y a un auditeur qui a fait une proposition. C'est vrai que c'est la journée internationale du livre, mais aussi on l'associe à la journée pour promouvoir le droit d'auteur. Il y a un auditeur qui a proposé qu'il y ait le plus de livres possible, qu'on puisse mettre, que les auteurs puissent écrire le plus possible. Donc que les gens qui ont vécu une certaine histoire, qui ont une certaine expérience, puissent s'adonner à l'écriture. Est-ce que vous pensez que cela est faisable dans les conditions actuelles?
Oui, il y a des manuscrits, mais pour inciter les gens à écrire, il faut organiser une stratégie de financement de la production du livre. Parce que s'il n'y a pas d'appui, à l'heure actuelle, la plupart des zones d'édition ne financent que les auteurs qui sont connus, mais les jeunes écrivains, ceux qui arrivent pour la première fois, n'ont pas l'accès facile au financement de leur manuscrit. Il y a lieu que nous puissions voir comment amener l'État, soit à financer directement la production du livre ou à aider les sponsors, à négocier avec les sponsors pour les amener aussi à soutenir la production du livre. Parce que la plupart des sponsors sont plus dans la production musicale et théâtrale ou même cinématographique, mais le livre est considéré comme un parent pauvre. Donc il y a lieu vraiment qu'on mette des actions stratégiques pour amener les gens à produire. Mais le manuscrit existe. Si on fait un appel à candidature, il y aura des gens qui pourront amener leur manuscrit. Qui se cache dans les tiroirs. Le problème, c'est le financement.
En conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs concernant cette envie de lire? Comment inciter à la lecture? En conclusion, qu'est-ce que vous leur dites?
En conclusion, ceux qui sont à côté des bibliothèques, qui prennent quand même le courage de fréquenter ces bibliothèques, parce que l'accès aux bibliothèques ne coûte pas trop cher. Parce que c'est aussi le manque d'intérêt Hein, pendant les heures libres, pendant les week-ends, les gens peuvent fréquenter les bibliothèques, ils vont découvrir des livres, des bons livres à lire. C'est un problème, de curiosité, et au fur et à mesure qu'ils le font, ils vont commencer à prendre goût et ça viendra progressivement. Donc, c'est un problème d'intérêt ici. Merci. On peut aussi les sensibiliser à travers les médias comme vous le faites, c'est quand même quelque chose d'intéressant.
Merci beaucoup, Maître Théodore Ngazi. Je rappelle que vous êtes écrivain.
Oui, merci.
Parole aux auditeurs.
Enfin, nous avons notre invité en ligne, comme je vous l'ai dit, c'est le professeur Georges Moulumba, il est directeur général de la Bibliothèque nationale. Bonjour, monsieur Moulumba.
Bonjour, madame.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous parlons de la promotion de la lecture en marge de la Journée internationale du livre célébrée chaque 23 avril. Ce n'est pas seulement la Journée internationale du livre, mais aussi du droit d'auteur, une occasion pour la promotion de la lecture, de l'industrie éditoriale et de la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d'auteur. Vous êtes directeur général de la Bibliothèque nationale. Est-ce que vous avez des statistiques, des chiffres pour savoir combien de personnes s'intéressent à la lecture? C'est assez large, mais au regard du nombre de personnes qui visitent la bibliothèque, est-ce que vous pouvez avoir une idée par jour, vous recevez combien de personnes en moyenne?
Disons qu'en moyenne, on peut compter une vingtaine en moyenne hein, pour la Bibliothèque nationale, ce qui n'est pas, c'est pas beaucoup. Cette situation s'explique par la position géographique, n'est-ce pas, de la Bibliothèque nationale. Elle est excentrée. Vous voyez où elle est située, la Bibliothèque nationale, dans le fin fond de la Gombe. Et puis, il y a une barrière des militaires. Les gens ont souvent peur, n'est-ce pas, des militaires. Mais cette barrière a quand même été déplacée un peu pour essayer de chasser cette peur. Donc, il y a en moyenne une vingtaine de lecteurs. Et hier, je me profite d'abord pour vous remercier la Radio Capi d'avoir été parmi nous hier lorsque nous avons organisé la Journée mondiale du livre des droits d'auteur. Merci beaucoup pour ce que vous faites, ce que vous souhaitez de faire pour faire connaître notre maison, par conséquent promouvoir la lecture. Je vous remercie pour cela. Et bien voilà.
Est-ce que vous avez l'impression que le Congolais s'intéresse à la lecture?
Écoutez, les avis sont partagés, hein, n'est-ce pas? Il y en a qui disent que le Congolais ne lit pas. Moi, je ne suis pas, je m'inscris en faux, contre cette façon de voir. Le Congolais a envie de lire. C'est ce que je disais à un journaliste d'ailleurs ce matin, que vous voyez les parlementaires debout. Regardez comment, quel engouement ils sont autour des journaux, n'est-ce pas, autour des arbres, etc. Ce qu'il faut, moi je pense qu'il faut peut-être poser la question autrement. Pourquoi le Congolais ne lit-il pas? Qu'est-ce qu'on met à la disposition du Congolais pour qu'il puisse lire? Voilà comment moi je formulerai le travail. Pour que le Congolais puisse lire, il faut lui offrir des livres. Comment lui offrir des livres? En ouvrant des bibliothèques, en créant des bibliothèques. Dans le milieu scolaire, dans nos milieux de vie, notamment dans nos communes où nous habitons, n'est-ce pas, et des bibliothèques municipales. Vous savez qu'il est rare, je crois que je n'ai pas encore vu, ici à Kinshasa, lorsque on y a un lotissement quelque part, on prévoit un espace réservé à la bibliothèque ou à la maison de culture. Ça, je n'ai pas encore vu. Donc, il faudrait qu'on crée d'abord ces structures de lecture, que celles qui existent, notamment les écoles, qu'on puisse décider que pour qu'une école soit agréée, il faut qu'elle dispose d'une bibliothèque en son sein. Et cela ne suffit pas. Il ne faudra pas que cette bibliothèque soit animée, soit dirigée par des amateurs, mais par des professionnels du livre, notamment par les bibliothécaires formés. Voilà.
Mais avec ce taux d'analphabétisme en RDC, qui est assez élevé, est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est un frein pour promouvoir la lecture?
Bien entendu, l'analphabétisme, ce n'est pas une fatalité, n'est-ce pas? On peut également, dans le cadre de la lecture, évidemment, essayer d'organiser des cours d'alphabétisation dans le milieu le plus reculé. Parce que vous savez que les gens, souvent les adultes, on étudie à tout âge, vous savez. Il y en a qui croient, non, moi je suis déjà âgé, je ne peux pas étudier, etc. Non, on peut étudier à tout âge. Donc on peut alphabétiser, même vous savez qu'il y a nos mamans qui n'ont pas assez étudié, qui ont quand même les yeux en place, à qui on peut apprendre à lire, à écrire, ne soit des lettres, alphabet, A, B, C, D, etc. D'ailleurs, c'est pour le marque souvent, quand il y a des personnes adultes qui viennent à l'école, et ces personnes adultes ne sont pas, s'appliquent plus que les jeunes gens. C'est ça? Ces personnes ont, sont amenées d'une volonté de pouvoir apprendre, voire convaincre un obstacle. Bien entendu, ça c'est également un frein, mais ce n'est pas une fatalité.
Oui, le professeur Georges Moulumba, restez avec nous quelques minutes le temps d'écouter Benjamin qui se trouve à Bounia, Jado de Massissi et deux autres auditeurs. Nous allons revenir à vous pour essayer d'échanger sur la lecture face à l'audiovisuel, aussi la lecture et la pauvreté. Nous allons essayer de développer avec vous. Nous allons d'abord écouter Benjamin de Bounia. Bonjour Benjamin.
Bonjour madame la journaliste.
Nous vous écoutons bien. Alors,
je vous écoute. Concernant la journée internationale du livre, moi j'avais quelques préoccupations à poser également.
Mm-hmm.
Alors ce qui m'intéresse plus pour moi, c'est que les gens ont perdu le goût de lecture au niveau de la RDC, c'est faux. Donc je vais le catégoriser un peu en quatre. Premièrement, je vais un peu attribuer la faute au notre gouvernement. Le gouvernement ne met pas en place dans des écoles des documents, des bibliothèques pour faciliter la lecture. Et puis de deux, je vais attribuer également la faute aux enseignants qui ne s'envoient plus les enseignants dans des écoles. Mais il ne faut pas être dans l'éveil de l'esprit. Donc il n'éveille plus le goût de lecture dans les, aux élèves. Pourquoi pas? Ils ne remettent pas plus de devoirs de lecture et on se base plus de calculs. Et puis, il y a également des fautes qui sont déjà attribuées également aux parents. Quand on arrive à la maison chaque fois le soir, il faut que le parent ait quand même ce goût-là de pousser les enfants pour aller étudier, au lieu de les pousser à vite dormir. Puisqu'à chaque fois, on, comme on dit en psychologie, qu'on acquiert beaucoup plus des accoutumances quand on est enfant. Puisque quand déjà on grandit, c'est comme si on perd souvent cette facilité-là de lecture. Et puis, j'essaie d'expliquer également la faute aux enfants eux-mêmes, donc aux élèves. Eux-mêmes, d'abord, doivent se concrétiser et puis porter en charge leurs problèmes. Et eux-mêmes, d'abord, n'arrivent pas à avoir ce goût-là de lecture, alors que c'est vraiment difficile.
Mm-hmm.
Et puis, ce que je voulais aussi dire, c'est quoi? Chez nous, au Congo, si les gens n'ont pas le goût de lecture, il y a également des fautes, que je veux dire, qui proviennent, qui sont élevées selon notre situation. Il n'y a plus de gens qui sont vraiment, qui n'ont pas un niveau scolaire pour le permettre de bien lire. Comme je vois cette fois Bounia ici, il y a même des journaux qui apparaissent, mais il n'y a pas de gens vraiment qui s'intéressent pour acheter ces journaux. Pourquoi? Ils ne savent pas lire. Alors, je vais proposer quelques solutions à notre pays. Alors, premièrement, je voulais dire ici que notre État, donc notre gouvernement, ait un peu donc, cette volonté de mettre en place les écoles au moins des bibliothèques, des mini-bibliothèques surtout, pour faciliter la lecture. Et puis je vais surtout proposer la prise de conscience des enseignants et puis des enfants eux-mêmes et des parents à pousser les petits enfants à avoir le goût de lecture dès le bas âge. C'est ma préoccupation.
Merci Benjamin de Bounia. Jado, à Massissi, bonjour.
Bonjour madame.
Oui, nous vous écoutons Jado. Quelles sont vos propositions?
Oui. Merci pour la parole. Concernant ce qui doit être fait pour encourager la lecture dans notre pays, avant peut-être de donner certaines propositions, je vais juste épingler quelques causes, même si nos prédécesseurs ont essayé de les épingler, mais je vais ajouter juste un aspect.
Mm-hmm.
Par rapport à la nouvelle technologie de l'information et de la communication, il y a la facilité d'accéder aux informations voulues dans peu de temps. Bien sûr, c'est une innovation, mais chaque innovation doit être cadrée parce que chaque innovation doit être accompagnée par des avantages, mais aussi des inconvénients.
Mmh.
En deuxième lieu, il y a le problème des enseignants. Il y a l'un des auditeurs qui a parlé de l'utilisation des cahiers et des archives. Alors, vous imaginez un enfant qui a terminé son cycle en train d'étudier dans ses cahiers et lui-même est déjà enseigné encore quand fait la même école. Vous imaginez vous-même quel type d'enseignement, quel type de qualité d'enseignement il va donner aux enfants. Mais je me dis, cette situation favorisée par aussi notre gouvernement d'une part, parce que dans la politique éducative, lorsqu'il y a surtout des réformes dans les programmes scolaires,
mais ces réformes, ces nouveaux programmes ne sont pas suivis par des ouvrages qu'on met à la disposition des écoles, mais aussi des enseignants, mm-hmm. qui doivent dispenser la nouvelle matière qui est introduite au sein des écoles, mais aussi des universités, comme des étudiants supérieurs universitaires. Quand on en tient, de la part des enseignants, je vais essayer de proposer ce qui suit. Les enseignants qui enseignent le cours d'IRS, initiation à la recherche scientifique au niveau des universités, des instituts supérieurs universitaires, qu'ils essayent d'organiser des visites équipées dans les bibliothèques, s'il y en a bien sûr, heureusement que les amis ont déjà émis l'idée selon laquelle le gouvernement doit disponibiliser les livres au sein des institutions scolaires. De deux, ils doivent s'efforcer et ils doivent insister sur la bibliographie dans les rédactions des TP. Vous voyez, nos étudiants qui élaborent les TP, les élèves, qui ne veulent décriphonner en fait des Français à ramasser. Il faudrait que ces enseignants puissent beaucoup plus attirer beaucoup de cours, beaucoup de points à cet aspect de bibliographie. Mais à part ça, au niveau des écoles, même à partir de l'école primaire, que les enseignants puissent attirer beaucoup de codes au cours de lecture, mais aussi de la rédaction. Mais au niveau du gouvernement, il faudrait qu'il y ait, à travers les inspecteurs, l'organisation des concours de lecture et donner beaucoup de cotes, donner des prix aux enfants ou aux apprenants qui vont gagner avec beaucoup, vont réussir avec beaucoup de points. Mais aussi, au niveau de notre gouvernement, ils doivent encourager les enseignants qui élaborent les ouvrages et les mettre à la disposition des enfants, mais aussi à la disposition des étudiants. Je pense qu'avec quelques propositions, les enfants qui vont aussi étudier et vont bénéficier des enseignements puissent, à un certain niveau, avoir le goût aussi de faire la lecture.
Merci, merci Jago de Massissi. Arsène, vous êtes à Mbandaka, bonjour.
Bonjour madame, bonjour à tous, vous êtes à Radio Café.
Oui, vous avez la parole Arsène.
Oui, ma préoccupation est la suivante. D'abord, je remercie un peu les auteurs de cette journée mondiale de la lecture, puisque la lecture pour les intellectuels, c'est la base. Puisque celui qui ne lit pas, il ne va pas développer sa connaissance. Et moi, étant que étudiant, je suis obligé, nous comme étudiants, nous sommes obligés de lire et de présenter la bibliothèque à tout moment, pour que nous développons notre connaissance.
Oui, Arsène, est-ce que ce n'est pas lié tout simplement à l'élaboration de votre travail de fin de cycle, ou bien c'est ponctuel, lié seulement à certains travaux pratiques, ou c'est vraiment la passion de la lecture?
Bon, pour la bibliothèque, je parle pour d'abord, premièrement, pour en ce qui concerne les enseignements, si l'enseignant avait donné le cours d'une manière superficielle, je peux aller à la bibliothèque pour approfondir la connaissance de ce cours. Ensuite, si peut-être il y a un travail de fin de cycle, je suis obligé d'aller chercher les auteurs, celui qui avait publié d'autres supports là, d'autres ouvrages, afin que de bien fortifier mon travail.
Donc,
ensuite, pour le travail pratique, ça nous aide beaucoup, puisque vous voyez, quand les enseignants de notre université, quand ils enseignent superficiellement. Et ils ne vont pas vous faire entrer en profondeur, ils vous disent que non, vous êtes des universitaires, il faut aller faire des recherches. C'est pour cela. Je vais maintenant donner comme conseil à mes confrères, frères, camarades étudiants, selon la bibliothèque, est très importante pour un intellectuel.
Merci.
Et je veux aussi recommander au directeur national de la bibliothèque qui venait d'intervenir là, nous aussi en Mbandaka, parce que je suis étudiant en troisième doctorat en faculté de médecine à l'université de Mbandaka. Nous avons notre bibliothèque ici, mais nous n'avons pas assez de livres. Nous avons besoin de livres, nous lisons beaucoup, mais nous n'avons pas des ouvrages vraiment pour lire. C'est pour cela, si peut-être la possibilité permettra ce prochainement, qui nous aide avec des ouvrages dans notre université.
Merci Arsène de Mbandaka. Raphaël de Kananga, bonjour. Bonjour Raphaël.
Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour, je vous écoute.
Oui, est-ce que vous pouvez éteindre votre poste récepteur qui est à côté de vous, la radio? Vous allez suivre l'émission à partir du téléphone portable. Tant que vous puissiez éteindre la radio, je vais lire ce message et puis nous allons revenir à vous, Raphaël. Et donc, de Béni nous écrit ceci. Je pense que lorsqu'on ne sait pas lire, on est privé d'un trésor. Et pour cela, il faudrait que les autorités, que ce soit au niveau de l'école ou de l'université, ils doivent faire un effort pour créer des centres de formation qui permettront de pouvoir initier les jeunes à la lecture. Et pourquoi pas organiser un festival ou un championnat des différentes institutions pour stimuler la jeunesse à la lecture. Raphaël, vous avez la parole. Bonjour.
Vraiment, madame, je suis content pour cette émission. Nous nous demandons pourquoi le gouvernement ne s'intéresse pas à la lecture. Puisque nous nous demandons, quand on était à l'école secondaire, à l'institut où de Campondé, chaque fois le matin, quand on arrivait, il y avait un temps qu'on donnait pour la lecture à haute voix. C'est-à-dire, il y avait même un professeur chargé pour ça. Et chacun de nous s'intéressait pour lire. Madame, quand vous voyez même notre budget ici, qu'est-ce qu'on a mis pour la lecture? Qu'est-ce qu'on a mis pour stimuler les gens à lire? Pour la lecture, c'est un travail intellectuel, ça demande une concentration. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de possibilités? Comment il peut même aller aussi dans des bibliothèques? Puisqu'il faut, on est payé pour entrer. Comment il doit aller entrer dans la bibliothèque? Si chaque année d'ailleurs, moi je ne vois pas les gens qui s'intéressent dans la lecture. Quand vous allez partout là où il y a même les bibliothèques, vous demanderez, vous ne voyez même pas les gens qui s'y entrent. Ils vous disent, bon, ce sont des anciens livres et tout ça, il n'y a pas à consulter, il n'y a pas à consulter. C'est pourquoi moi je demande à notre gouvernement, chaque fois qu'on doit élaborer les budgets, pour que son Dieu vraiment à avoir un peu de crédit. On peut avoir une grande somme quand même d'argent destinée aussi pour stimuler quand même les gens qui s'intéressent à la lecture et aussi leur donner au moins les moyens de lire.
Oui, merci Raphaël de Kananga. Nous allons redonner la parole au professeur Georges Moulumba qui va réagir face aux avis des auditeurs mais aussi faire une analyse sur cette question qui vient d'être soulevée par notre auditeur Raphaël, où il fait allusion à la pauvreté et à la lecture.
Au Café Retro, fait revivre l'étude des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, no, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit, avec les mix de DJ David.
Professeur, vous avez suivi nos auditeurs. Il y a cette question de notre auditeur de Mbandaka. Dites-nous, au niveau de la bibliothèque, comment faire face pour que les livres ou bien les documents qui sont dans la bibliothèque soient souvent renouvelés et que la bibliothèque reste toujours à la pointe de l'évolution de l'actualité.
Merci, j'ai suivi l'auditeur de Mbandaka. Je vous remercie pour ta question. Au niveau de la bibliothèque nationale, nous avons des antennes qui sont créées en province. Je dis bien qu'ils sont créées. Et parce que depuis 2006, il y a un arrêté qui a été pris le ministre de la Culture et des Arts. Et en Mbandaka, justement, en province de l'Équateur, il y a quelques antennes qui ont été créées. Juridiquement créées sur papier. Maintenant, il y a un problème réel, un problème d'infrastructure. Il faut une infrastructure pour pouvoir héberger, n'est-ce pas, ces différentes antennes. C'est la raison pour laquelle nous entrons souvent en contact avec les opérateurs politiques de chaque province afin de nous faciliter la tâche pour que nous puissions ouvrir une antenne, par conséquent, amener la documentation qui pourra servir à la population. Concrètement, au niveau, je vais prendre un exemple simple, la province orientale, notamment à Isiro, nous avons signé un partenariat avec les pères dominicains, qui ont mis à la disposition de la bibliothèque nationale leur ancienne chapelle qui va nous servir, n'est-ce pas, de bibliothèque d'antenne, la bibliothèque au niveau de l'université. Et bien entendu, tout est déjà pratiquement centré, il y a un truc à effectuer une mission parce que tout est déjà prêt. Et nous demandons la même chose à nos amis de l'Équateur, parce que des livres, on a que les livres nous vont donner. D'ailleurs, il y avait un carton de livres qu'on a déjà envoyé au niveau de la province de Mbandaka pour servir, soit d'embryon de la bibliothèque nationale. Voici déjà 3 ans, j'espère que les livres sont arrivés. Donc la bibliothèque nationale, et c'est pour toute la nation, bien entendu, elle fait ce qu'elle peut pour pouvoir apporter la lecture auprès de nos populations. Je remercie vivement notre ami de Mbandaka pour la préoccupation, sa préoccupation qui est la nôtre, qui est la mienne.
Et quelles relations vous entretenez, par exemple, avec les bibliothèques dans les universités?
Et évidemment, les bibliothèques, c'est un centre de documentation. La bibliothèque nationale, c'est la bibliothèque mère. Nous sommes en contact avec la bibliothèque des universités. Lorsque nous avions bénéficié du projet ad hoc, projet d'appui à la documentation RDC, projet signé entre la République du Congo et la France, l'ambassade de France, nous avons eu des échanges. Nous avons donné de la documentation dans des universités, dans des centres dans des centres de formation. Et notamment, on a eu à restaurer la bibliothèque de la faculté des sciences. On a donné la documentation en médecine, la documentation en lettres, un peu partout. Donc, il y a une coopération, agissante entre nos universités et la bibliothèque nationale. Bien entendu, cela dans les limites de nos possibilités, de nos et de nos moyens. Mmh. Vous savez que notre moyen principal d'approvisionnement, c'est le dépôt légal. Le dépôt légal, c'est-à-dire qu'il y a en principe 6 livres qui doivent être déposés par tout celui qui le produit. Mais malheureusement, très souvent, nous n'arrivons pas à avoir ces 8 exemplaires, parce que parmi les 8, il y en a 2 que nous donnons à la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Les 6 autres qui restent, vous imaginez, nous devons déposer dans nos différentes antennes. Présentement, nous avons 2 antennes dans le Bas-Congo, une à Goma, une autre dans le Bas-Nounou, une au Katanga, une autre au Kasaï occidental. Mm-hmm. Et souvent, les gens ne déposent pas le nombre de requêtes, c'est-à-dire 8. Il y en a qui nous apportent plusieurs exemplaires. Non, professeur, écoutez, je n'ai pas pu avoir beaucoup d'exemplaires, j'ai publié un compte d'auteur. À ce moment-là, vous voyez que l'équation devient difficile pour pouvoir, partager du sachet libre à travers le fisque.
Et maintenant, la lecture là, pour l'université de Mbandaka, donc il y a cette relation, peut-être que l'université peut essayer de contacter la bibliothèque ou la bibliothèque contacte l'université pour pouvoir satisfaire aux besoins de notre auditeur qui se pose autant de questions pour fournir sa bibliothèque d'université. Mais allons-y à la lecture face à l'audiovisuel, parce que actuellement les jeunes préfèrent passer leur temps devant la télévision, ça c'est un fait réel, au lieu de se pencher dans un livre.
Oui, d'accord. Alors, combien a-t-il d'abord qui peuvent accéder, n'est-ce pas, au niveau de projet d'information et de communication? Pour la condition première, c'est le courant, n'est-ce pas, le courant électrique. Vous connaissez les réalités, n'est-ce pas, qui sont les nôtres en ce domaine bien précis. Et puis, Internet, c'est tout ça, c'est le projet d'information, qui y accède? Qui a un Internet chez lui? Très peu. Je ne dirais pas que l'Internet est déjà banalisé.
Mais par contre, avec la radio, ça coûte moins de 2 dollars et on a une batterie à moins de 1 dollar. Avec la radio, on peut facilement oublier de pouvoir lire.
Non, c'est-à-dire qu'en fait, oui, la tentative est grande. Sans doute, la lecture implique un effort. Ça, il faut d'abord penser à pouvoir lire. C'est toujours un effort. Aller chercher un livre, aller dans une bibliothèque, remplir une fiche, se mettre, être isolé et le lire. Tandis que, à la radio, à la télé, paf, il suffit de tourner le bouton, de faire des appels, comme vous dites, et on subit. On est là, et qu'est-ce qu'on regarde d'abord, la plupart des quel programme? C'est ça le problème. Est-ce qu'on a des programmes, culturels que les jeunes gens sont en train de suivre? Souvent, ce sont des films porno ou des films nigériens, des choses qui captivent l'esprit de ces jeunes gens. Donc, il est question de pouvoir orienter ces jeunes gens, n'est-ce pas? Les parents ont un rôle. capital, un rôle important à pouvoir jouer dans l'éducation des enfants, pour leur dire qu'on ne regarde pas n'importe quoi, même pour la lecture, on ne lit pas n'importe quoi.
Avant de vous libérer, vous avez dit que vous n'avez pas suffisamment de temps. La dernière question, face à la pauvreté, donc il y a un auditeur qui a dit aller s'inscrire à une bibliothèque, ça vous demande un peu de sous, et pourtant, ou encore s'acheter un livre, c'est assez difficile. Et quel est votre point de vue?
Oui, c'est vrai que il faut un minimum, hein, il faut un minimum d'argent, et ça, c'est vrai. Voilà pourquoi, mais pour lire un livre, il ne faut pas nécessairement l'acheter. Mm-hmm. C'est la raison pour laquelle je dis que s'il existait des bibliothèques municipales, et là, l'accès n'est pas onéreux, pas, tout le monde peut facilement y aller. Et parfois, il y en a qui peuvent vous demander 100 francs bénévoles, symboliques. Regardez, par exemple, au niveau de la Bibliothèque nationale, on demande aux élèves, aux étudiants, aux élèves, 500 francs.
Pour toute l'année.
Oui, pour un trimestre.
Pour un trimestre.
C'est presque rien, ça. Mm-hmm. C'est ça? Donc, il y a d'abord la volonté. C'est ça? Il faut vouloir. Quand on veut, on peut. Mm-hmm. Je crois.
Et en conclusion, l'importance de la lecture, au regard même de ces journées du livre qui a été célébrée hier, une conclusion pour nos auditeurs?
Oui, c'est vrai que hier, je voulais vous rappeler un petit rien. On a parlé tout à l'heure des élèves, etc. Parce que quand vous étiez avec nous hier, nous avons, au cours de la manifestation d'hier, nous avons organisé un concours de dictée de culture générale pour les élèves de 5e, des humanités. On les a interrogés. On les a primés grâce au concours du service de l'ambassade de France. Et nous avons donné à chacun de ces élèves qui a participé à ce concours, nous avons donné à chacun de ça un abonnement gratuit à la Bibliothèque nationale. Mm-hmm. Voilà une façon concrète de pouvoir aider ces jeunes gens à venir à la lecture.
Mmh. Merci beaucoup, professeur Georges Moulumba. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Bibliothèque nationale. Nous poursuivons cette émission. Nous allons suivre Sengi qui se trouve ici à Kinshasa et Théodore de Mbujimayi.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Sengi.
Bonjour Marie-Chantal, bonjour Parole aux auditeurs, bonjour le Sengi, c'est bien qu'il est parfait.
Nous vous écoutons, Sengi.
Ok, merci beaucoup, notre associé, pour l'émission d'aujourd'hui. Le problème dont nous parlons aujourd'hui est d'une importance capitale, dans la mesure où nous nous rendons compte de ces derniers temps, de ces dernières années, que les gens ne savent plus lire. Même une lecture courante, ça pose problème pour pas mal de gens. Alors, l'éditeur a bien souligné, je crois, avec d'autres éditeurs, que c'est vraiment une lecture, c'est une volonté personnelle, un effort personnel. Alors, pour avoir ce goût-là, ce sont les enseignants, déjà de l'école primaire, qui doivent donner ce goût aux élèves, à leur initiation de lecture en classe chaque jour. C'est façon comme une obligation. Qu'on ne peut pas commencer le cours sans connaître une lecture. Une lecture à haute voix, bien sûr. Alors, quand l'enfant prendra déjà le goût de cela, je crois que dans l'humanité, et la suite de ce cursus studiatique, il n'aura pas de problème de lecture. Alors, aussi, nous remarquons que dans les écoles, dans la plupart des écoles qui se créent ici à Kinshasa, des écoles privées, parfois même publiques, on ne trouve pas la bibliothèque. Donc, comment une école peut fonctionner sans une bibliothèque? Qu'est-ce que les enfants vont se cultiver? Moi, c'est ça, c'est pas une enfant. La plupart des fois, il n'y a pas de bibliothèque. Même s'il y a, dans quelques jours, il y a des bibliothèques, mais qui consultent les livres-là.
Donc, à votre avis, il faudrait obliger ces écoles à pouvoir avoir des bibliothèques avant d'ouvrir qu'il y ait des sanctions à l'endroit de ces écoles qui n'ont pas de bibliothèque.
C'est ça. Alors, aussi, créer un espace, par exemple, de lecture, des temps de lecture pour par semaine. En fait, quand les samedis, ici, par exemple, tu ne dis pas. Alors, oui, comme c'est demi-journée, avant midi, on dit que 7h30 à 8h30 ou à 10h, on passe à la lecture. Tout le monde dans la bibliothèque. Alors, c'est ça peut se faire si c'est dans les classes terminales où on n'a pas assez de l'air.
Mmh,
les élèves apprendront à lire et ils Et il se défendra aussi par cela où c'est une protection.
Merci beaucoup, Sengui de Kinshasa. Vraiment, nous allons nous excuser auprès de Paul Bakunyenga qui se trouve à Paris. Nous n'avons plus assez de temps pour pouvoir le recontacter et pour qu'il puisse participer à cette émission. Nous prenons le dernier auditeur de cette émission, c'est Théodore qui se trouve en Bougemaï. Bonjour.
Bonjour. Ici, dans notre ville de Bougemaï, depuis la colonisation, la lecture n'avait pas sa place. C'est seulement après quelques refoulements que nous avions observé le lecteur. Parce qu'il y a eu, il y a aussi un engouement autour des bibliothèques du message du Pas de la Fin, prêché par William Aron Panam. Il y a beaucoup de gens qui courent derrière ces bibliothèques ici en Bougemaï. Mais un constat particulier fait que la plupart des élèves ici négligent la lecture. Et il y a même les petits étudiants qui ne maîtrisent pas la grammaire. La plupart des jeunes, surtout les jeunes, les créateurs de gamins qu'on sort, ils se méfient à la lecture pour se donner à connaître les griffes d'habits, connaître la vie interne des hommes d'affaires, des nouvelles marques des véhicules qui entrent. Et à cela, je constate aussi qu'il y a la rareté des ventes des journaux de la presse sur la ville. C'est pourquoi les autorités éducatives orientales ont des pains sur la planche pour vraiment reconstruire beaucoup de bibliothèques par la ville.
Ça pourra permettre de promouvoir la lecture. Merci Théodore de Mbouzimé, vous êtes le dernier auditeur de cette émission. Et c'est aussi une occasion pour dire merci à tous les auditeurs qui sont intervenus au cours de cette émission et ceux qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention, que ce soit en effet ou connecté sur www.radiocapi.net. C'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette émission. Nous allons nous retrouver demain.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Et demain, nous parlerons du processus électoral. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, prévoit d'organiser les élections provinciales et locales en début de l'année prochaine, donc en janvier 2013. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez réagir dès à présent. Nous écrivons à l'adresse internet pa@radiocapitole.net ou encore en postant votre avis sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Nous disons également merci à toute l'équipe qui a réalisé cette émission, Christine Poutou, Chiro Lamézi, Éric Sidiakala sous la coordination de Nicole Ngaka. Mon mari Chantal Lumba était à la présentation. Je vous souhaite une bonne journée et restez branchés sur Radio Capi pour la suite de ce programme.